Chapitre 26. Ce 23 novembre 1935, dans la petite église du village côtier, tous avaient revêtu leurs plus beaux atours. Lorsque le mariage avait été annoncé par le curé du haut de la chaire, deux semaines auparavant, la plupart des gens avaient réagi en s'étonnant de cette drôle d'idée. Les commérages avaient envahi l'anse à la joie. Lucienne avait réprimandé tous ceux et celles qui jugeaient la noce avec ironie. Si Palmyre et Rosario ont choisi de finir leur vie ensemble, c'est pas de nos affaires, à personne. La voisine de Madeleine s'ennuyait beaucoup depuis la disparition de son mari. Depuis 50 ans que je m'occupe de quelqu'un, moi, et du jour au lendemain, j'ai plus rien à faire. Elle venait donc tenir compagnie à Palmyre presque quotidiennement. Même si Lucienne aurait pu être la fille de Palmyre, les deux se découvraient une nouvelle amitié. Elles jouaient aux cartes, se confiaient leurs secrets et tricotaient côte à côte. Avec sa robe noire boutonnée de blanc, Lucienne portait le deuil avec un petit soupçon de gaieté pour son amie Palmyre. Assise près de Clémence et Jean-Julien dans l'église, Lucienne était nerveuse et parlait sans arrêt. « Je trouve qu'il fait beau pour un mariage. J'ai l'impression que le curé a maigri un peu. On dirait que les enfants de Géraldine et Omer ont appris à se tenir. » Clémence jeta un regard exaspéré à son oncle Jean-Julien, qui retenait un fou rire. Depuis son retour au village, elle habitait chez le photographe, qui se faisait un plaisir de partager sa maison avec sa nièce préférée. Elle occupait son temps à faire la cuisine pour le célibataire endurci, et le soir, le duo jouait aux cartes ou lisait un peu à la lueur de la lampe. À quelques bancs devant eux se trouvait Madeleine, qui tenait son fils dans ses bras. Même si les jumelles auraient voulu vivre ce beau moment l'une près de l'autre, elles respectaient toutes les deux le choix de Tom, ce qui ne les avait pas empêchées de se lancer un long regard entendu quand Rosalie Taillefer s'était avancée dans l'allée, la mine basse et le visage blême. C'est de ça qu'on a l'air quand on se fait prendre à son propre jeu, pensèrent les jumelles, sans éprouver de pitié pour la jeune marchande, qui se glissa dans le banc réservé à sa famille. Jacqueline l'avait suivi des yeux, en cachant son tumulte intérieur sous un air sévère. Depuis qu'il avait embrassé et touché le corps de Rosalie, le curé vivait un vrai calvaire. Il aurait voulu récidiver, goûter de nouveau ses lèvres exquises et prendre le postérieur bien rond dans ses mains. Les images qui lui venaient en tête étaient si impures qu'il passait ses soirées à prier son Dieu de lui pardonner ses offenses. Entre Gérola et William, la jeune femme fixait ses doigts croisés sur ses jambes cachées par une longue jupe noire. Si elle s'était écoutée, Rosalie aurait aussi revêtu sa blouse foncée, mais sa mère l'en avait empêchée de sa voix faible. « Voyons, ma fille, on s'en va pas des funérailles. » Rosalie avait tenté de rester au magasin général pour éviter cette présence à l'église. « Je connais pas vraiment ces gens-là, papa », avait-elle clamé d'un ton doucereux. « Je pourrais demeurer au magasin et m'occuper des clients. Allez-y, vous autres, au mariage. »« Ben non, ma fille, on va fermer. De toute manière, tout le monde va être à l'église. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un événement aussi réjouissant au village. » Rosalie avait souri faiblement, en soupirant. Et maintenant qu'elle se trouvait si près de la fratrie Gérard, elle sentait le jugement des jumelles et l'insistance dans le regard du curé. Elle se pencha pour prendre la main de sa mère. « Maman, je me sens pas bien. » Encore? Inspire, ma fille. Gérola et William, qui commençaient à trouver que leur sœur exagérait, soupirèrent en levant les yeux au plafond. Ils avaient déjà à subir les hauts et les bas émotifs de leur mère depuis plusieurs années. Prends sur toi, Rosalie, t'es fatigante à la fin, marmonna son aînée. Jacqueline patientait à l'avant de l'église en marchant de long en large devant la première rangée de bancs. Il remarqua la vulnérabilité qui émanait du corps courbé de la jeune femme, sans même réaliser qu'il en était le responsable. Il eut envie de s'approcher pour la serrer contre lui et dut se crisper de tout son être pour rester de marbre. Rosario avait fière allure près de l'hôtel où il attendait sa fiancée. L'homme était toujours aussi imposant et malgré le tremblement qui affectait ses mains depuis quelques années, il respirait la fierté. Les murmures se firent de plus en plus étouffés au fur et à mesure qu'approchait 10 heures. Quand le bedeau arriva en courant sur ses courtes jambes pour chuchoter à l'oreille de Jacqueline, Tous les villageois redressèrent le torse et tournèrent la tête vers l'arrière de l'église. Le maître chantre s'installa à l'orgue pour jouer la marche nuptiale, et les portes s'ouvrirent lentement. Oh! Tenant les bras de Tom et de Freddy, la fiancée s'avança dignement dans l'allée. Elle est magnifique, souffla Simone à sa fille aînée, qui avait la bouche grande ouverte devant son arrière-grand-mère ainsi endimanchée. Philomène ne fit que hocher vigoureusement sa tête blonde, puis elle reporta son regard sur Palmyre, qui marchait lentement entre les deux hommes. Vêtue d'une longue robe gris pâle, elle portait une jolie couronne de fleurs sur sa tête blanche. Quand Clémence était arrivée avec cet article acheté à Gaspé, sa grand-mère avait d'abord refusé sec de le porter pour le grand jour. « Voyons donc, toi, je veux pas avoir l'air d'une jardinière. »« Arrêtez, grand-mère !» avérit la jeune femme. « Vous voulez pas mettre de voile, pas de chapeau? Il faut que vous portiez un accessoire dans vos cheveux, je vous le dis. » À force d'arguments, Palmyre avait accepté le matin même de porter les fleurs roses et bleues. Et avec le léger fard que sa petite fille avait appliqué sur ses joues pâles, elle était effectivement radieuse. La vieille dame sentit sa vision s'embuer lorsqu'elle vit son fiancé s'avancer dans l'allée, sous les regards émus des villageois. Madeleine et Simone avaient déjà commencé à pleurer et les reniflements de plusieurs femmes s'entendirent dans l'église. Palmyre avait refusé de prendre sa canne. « Je vais pas me pavaner devant tout le monde avec ça », avait-elle lancé la veille. « Freddy et Tom sont bien assez forts pour m'empêcher de tomber. » Et les deux hommes se firent un honneur d'accompagner la grand-mère jusqu'à Rosario. Freddy appréciait particulièrement les coups d'œil qui lui étaient adressés. Après tout, en tant que pêcheur, ce n'était pas fréquent qu'il puisse ainsi se bichonner. En passant près du banc de la famille Taillefer, il croisa les yeux bruns de Rosalie, et la jeune femme lui fit un doux sourire. Alors qu'il allait lui rendre l'appareil, l'homme se souvint des mensonges proférés par la jeune femme, et il la toisa sévèrement. Le regard fut bref, mais assez long pour que Rosalie se recroqueville avec inquiétude. « Voici votre fiancé, Rosario », souffla Tom avec affection. Le vieil homme agrippa le bras de la femme et, à petits pas, ils avancèrent pour prendre place dans les chaises installées devant l'autel. La cérémonie, empreinte de douceur, fut étonnamment brève. Mais Jacqueline avait reçu la visite des jumelles quelques jours plus tôt et s'était rendue à leur argument. Il faudrait pas que la cérémonie s'éternise, Jacqueline. Grand-mère a de la difficulté à bouger et il lui faudra marcher jusqu'en avant de l'église. Elle sera fatiguée. Je pense que tu devrais aller à l'essentiel. Après tout, ils sont tous les deux veufs et bien au fait des exigences du mariage. Alors, au bout d'une trentaine de minutes, quand le curé leva le calice puis l'ostensoir, les croyants se mirent à gigoter sur leur banc, conscients que la cérémonie tirait à sa fin. Les enfants, qui jusqu'à présent s'étaient tenus assez tranquilles, commencèrent à parler un peu plus fort aux grands dents de leur mère. « Chut, chut » entendait-on un peu partout. La tête penchée, Rosalie tentait de trouver le courage pour s'avancer dans l'allée, afin de recevoir la communion de la main de l'homme qui l'avait trahie. Comme elle se levait à la suite de ses parents pour se glisser dans l'allée centrale, un gémissement incongru envahit l'église. « Oh !» Les gestes des fidèles furent suspendus et tous les yeux se dirigèrent vers Madeleine, dont le visage avait pris une teinte terreuse. « Mes os !» chuchota-t-elle avec dépit. « Freddy, j'ai perdu mes os !» En l'espace de 10 minutes, Freddy alla chercher la carriole pour ramener sa femme chez eux. Clémence s'approcha de Madeleine et prit Arthur dans ses bras. « Je m'en occupe !» clama-t-elle sans que sa sœur songe à protester. Du regard, Madeleine cherchait Simone. Elle lui avait promis qu'elle serait à ses côtés. Une violente contraction la fit se plier en deux, et devant le malaise évident des villageois présents à l'église, la parturiente s'empressa de saisir le bras d'Émile pour sortir sur le parvis. « Merci, » murmura-t-elle. « Peux-tu aller chercher Simone, s'il te plaît? »
Simone?
Oui. Émile hocha la tête, malgré son malaise de s'approcher de la jumelle alors que Tom se trouvait à ses côtés. D'ailleurs, il comprit à la raideur du torse du grand blond que sa demande était bien mal reçue. Palmyre et Rosario étaient restés assis sur les chaises devant l'autel, en se tenant affectueusement par la main. La vieille femme avait le cœur serré et son nouveau mari s'empressa de la rassurer.
Tout ira bien, ma Palmyre. Ma dit est faite forte. Mais j'aime pas ça.
Rosario passa une main rugueuse sur le menton tremblant avant de lui baiser la joue. Quand Simone regarda son mari, elle n'eut pas à parler. Tom se pencha pour prendre Béatrice et sortit du banc devant son épouse sans lui adresser un mot. Attristée, la jeune femme hésita quelques secondes, mais elle chuchota quand même. « Je reviendrai à la maison quand ce sera fini, Tom. » L'homme fixa le couple de nouveau marié sans répondre, alors que Simone s'empressait de courir hors de l'église en enfilant rapidement son chapeau et son manteau. Sa jumelle l'attendait. Dans la cohue qui suivit, Jacqueline réussit à se placer derrière Rosalie Taillefer sur le parvis, où les villageois, excités par tous ces événements, lancèrent du riz au couple de vieux qui se tenait devant eux. « Vive les mariés! Vive les mariés! » Rosalie oublia momentanément son tourment, mais en se retournant pour rejoindre ses frères, elle buta sur Jacqueline, qui la retint d'une main ferme. « Attention de ne pas tomber, Mademoiselle Taillefer! » Figée sur place, la pauvre fille sentit ses jambes faiblir, et elle dut prendre la main du curé contre son gré. Puis elle ferma les yeux quelques secondes, et quand elle les ouvrit, le regard déçu que lui lança Émile la convainquit que le secret qu'elle avait confié à Simone était en train de s'ébruiter, et pas de la bonne façon. « Émile !» lança-t-elle avec désespoir en s'éloignant rapidement de Jacqueline. « Émile, je peux te parler ?» Le grand blond inspira profondément pour calmer sa colère. Freddy n'avait pas pu garder sa langue lorsqu'il avait vu Émile, le jour après sa discussion avec les jumelles. Il lui avait confié « Prends garde à Rosalie Taillefer, mon ami. Elle colporte certains mensonges. » Devant l'insistance d'Émile, le jeune pêcheur avait balbutié à propos d'un supposé baiser qu'aurait échangé Rosalie avec un homme marié du village. D'abord interloqué et incrédule, Émile avait fini par croire les propos de Freddy. Il s'approcha donc à regret de la marchande, tout en gardant une certaine distance. « Oui, c'était un beau mariage, n'est-ce pas? » « Oui. Bon, tu m'excuseras, mais je dois raccompagner Lucienne Marcellet. » Sans plus un regard, le costaud s'éloigna de Rosalie, qui rougit de honte. Elle avait l'impression que le village au complet lui jetait des coups d'œil suspicieux, et sans attendre sa famille, elle se mit à marcher vers la côte du Sureau. « J'ai rien fait de mal !» pleura la jeune femme en laissant ses larmes couler sur ses joues. Il avait été entendu que le souper de noces aurait lieu dans la maison de Lucienne. « Toi, ma fille, arrangée comme t'es là, tu peux pas recevoir 20 personnes à souper !» avait dit la femme à sa jeune voisine. Épuisée par sa fin de grossesse, Madeleine n'avait pas été difficile à convaincre. Quand elle mit le pied dans sa maison, suivie par Simone et Freddy, la femme inspira profondément. « Bon, bien ça y est, mon Freddy. Ouais. Qu'est-ce que je fais ?» L'homme se sentait aussi dépourvu que lors du premier accouchement de Madeleine. Simone s'approcha de lui, mit le cadeau qu'elle devait offrir au nouveau marié dans les mains de Freddy et le poussa gentiment. « Tu t'en vas à côté pendant que je m'occupe de ta femme. Joséphine m'a dit qu'elle s'en venait en sortant de l'église. Tout va bien aller. » Sans discuter, le futur papa prit ses jambes à son cou et sortit en fumant une cigarette. « Et que j'haïs ça, ce bout-là » grogna-t-il en mettant le cap chez Lucienne Marcellet.